Donc, vous avez les toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. Ça se présente de façon un peu curieuse, n'est-ce pas? Voici les descendants, génération de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a mis au monde Yitzhak. D'habitude, en général, quand on donne les descendants à partir de Yitzhak, ensuite, mais là, on dit, on remonte. D'accord ? Yitzhak est bien Abraham, et on précise que c'est Abraham qui l'a mis au monde. On comprend bien un petit peu à quoi ça sert de le dire. Mais on peut dire ici que quand on dit que c'est le fils d'Abraham, c'est une façon de dire. Bon, alors bien sûr, ça vient contredire ceux qui disaient, mais Avimelech qui t'abra Sarah. Ceux qui se moquaient, qui disaient qu'en vérité, Sarah elle est enceinte, mais d'Avimelech, parce qu'elle avait été prisonnière chez Avimelech. Ensuite, elle a été libérée, elle a été prisonnière chez Paro, et puis ensuite chez Avimelech. Les gens disent, évidemment, c'est Avimelech qui l'a mise enceinte. Ce qui est un peu débile, parce que le problème, c'est que Sarah était vieille. D'accord ? C'est connu que les hommes, ils peuvent même être assez vieux, ils peuvent encore procréer. Mais une femme qui a dépassé la ménopause, etc. Et donc le problème, dire que c'est Avimelech qui l'a mise enceinte, alors qu'elle avait 90 ans, c'est mieux, ça diminue en rien le miracle, mais ça, si vous voulez, ça invalide Avraham. Ça veut dire, tu nous racontes des salades, et c'est pas ton enfant. Ça veut dire, il n'est pas vraiment ton successeur, puisqu'il est peut-être ton successeur spirituel, mais pas biologique, etc. Bon, ça c'est un peu la petite porte, quoi. Mais d'autres disent qu'en fait, il faut le lire, que parmi tous les élèves d'Abraham, il y en a eu beaucoup, y compris les enfants qu'il a eu avec Ketura, deuxième épouse. D'accord, celui qui est vraiment le descendant d'Abraham, c'est Yitzhak. Et donc, du coup, dire cela... D'accord, dire que... Merci. Dire que... Elle est... Dire qu'il est son enfant, c'est déjà dire quelque chose sur Yitzhak, vraiment. C'est pas qu'on vient nous dire qu'Abraham a mis au monde, mais que Yitzhak est vraiment le descendant d'Abraham. Au sens... Et ça fait partie des toldot, puisque, vous savez, on dit les toldot de Tzadikim, c'est la Torah et les Maasim Tovim. C'est pas les enfants qu'ils ont mis au monde. Leurs engendrements, les générations, c'est leur conduite. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont fait comme Maasim Tovim, comme bonnes actions, etc. Bien, alors on nous dit que Yitzhak, puisqu'on va parler de ces toldot, on dit qu'il a 40 ans, donc il est à Akeda plus 3, quand il épouse Rivka. Et la Torah dit au verset 21 que Vayater Yitzhak l'Hashem le Noch Achishto qui a Karaï. Ça vient très vite. On apprend, comme dans le même souffle, que Rivka était stérile, que Yitzhak a prié pour elle, et qu'Hachem l'a exaucé. Et Rivka a été enceinte. Alors Rashi dit, ce mot de Vayater, qui dit qu'il a prié, si vous voulez, c'est un mot un peu particulier. On peut dire qu'on le traduit par implorer, par multiplier, insister dans la prière, etc. Rashi dit, Irba veiftsir batfila. Il a beaucoup prié et il a beaucoup supplié dans la prière. Vayater lo. Nid patser, venit payes, venit patalo. ואומר אני, כל לשון אתה, לשון הפצרה וריבוי הוא, וכן אתה רנן הקטורת, מרבית עליה, עליתה, עליית הישן, ובואו, היא לפור דוטר ורסה, c'est intéressant parce que il a beaucoup prié. Certains disent que Vayater, c'est la Gemara, elle dit que c'est comme si, c'est un terme qui est utilisé aussi pour dire béché. Il a beaucoup béché son chant, il a beaucoup prié pour implorer. Et le Ramamon qui ramène d'un Sefer Shevet Moussa, la chose suivante, c'est que il y a une Gemara qui dit qu'il y a trois choses qui en fait ont comme conséquence que on meurt prématurément ou que ça c'est pas très bien de le faire. Alors une chose c'est de passer sous un mur qui est brûlant. La deuxième chose c'est prier longuement. Donc, prier longuement, c'est pas bien. Et la troisième chose, c'est appeler le jugement sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est une des choses, on dit que pourquoi Sarah est morte 48 ans avant Abraham, parce qu'elle a appelé sur, elle a demandé à Hachem de juger entre elle et Abraham. Ce qu'elle reprochait à Abraham lorsqu'il a prié pour avoir un enfant, lorsqu'il a dit à Hachem, mais tu me fais des promesses, mais je n'ai pas d'enfant, et c'est mon intendant qui est mon héritier. Il a dit, je n'ai pas d'enfant. Alors Sarah lui a fait le reproche. Il aurait dû dire, nous n'avons pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant avec Sarah. Donc Sarah lui en a beaucoup voulu. Alors elle l'a passé à tabac, en rame. Alors c'est marqué dans le livrage qu'elle l'a greffé, elle l'a frappé, etc. Hein? J'ai cherché dans les archives de la police, mais on ne voit pas qu'il y a des plaintes. Mais enfin bref, le livrage dit qu'elle l'a vraiment passé à tabac. Et ensuite, elle a dit, « Yishpot Kachem, juge entre toi et moi. » Quand tu appelles le jugement sur quelqu'un, tout d'abord on regarde, qui est-ce qui demande le jugement? On va regarder son propre dossier d'abord. Comme personne ne tient le coup devant le jugement, si tu l'appelles, donc elle est morte avant. Donc c'est une des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas appeler le jugement d'Hachem sur quelqu'un. Parce que on regarde d'abord qui tu es, toi qui appelles, qui permet d'appeler le jugement. Et la prière, justement la longue prière insistante, en général, on a l'habitude de dire que c'est pas bien parce que tu insistes en pensant que si j'insiste, Hachem cédera. Mais Hachem, il a entendu la première fois que tu lui as demandé. Peut-être la réponse, c'est non. Mais toi, tu ne veux pas entendre le non, alors tu crois que si tu pries encore un peu plus, encore plus fort, etc., ça finit, ce non, il va devenir oui. Et ça, c'est pas bien du tout. Et là, le rabbin, un mot qui ramène là, dans la Torah, dit que, puisque ce verbe-là qui est utilisé, vayater, c'est un verbe qui met vraiment l'accent sur l'insistance, la répétition du même acte, comme dit Rashi, mais il n'est pas bon cependant d'être trop insistant à sa prière, même lorsqu'il s'agit d'implorer la bénédiction d'avoir une postérité. Et voici Yitzhak, à qui Hachem a accordé son désir. Donc tu veux avoir un enfant, tu insistes beaucoup, ok, tu vas en avoir. Et son fils Esav se corrompit et devint objet de chagrin et d'affliction pour ses parents. Donc il dit, curieusement, il met sur le dos de l'insistance dans la prière d'Yitzhak le fait d'avoir eu un fils comme Esav. Bon, je ne sais pas si c'est très autorisé, c'est un Aharon qui dit chose pareille. C'est vrai que c'est marqué qu'il ne faut pas insister, mais est-ce qu'il a vraiment insisté plus qu'il fallait? C'est vrai qu'il y a la terre, ça veut dire qu'il a comme s'il avait creusé la terre. Et le grand problème, c'est que si vous regardez le texte, vous voyez, le mot qui est utilisé pour dire que Hachem lui a répondu, c'est le même mot que celui qui est utilisé pour dire qu'il a prié. D'accord? C'est vrai que là, vous voyez, Vayater, c'est les mêmes lettres, pour ponctuer un petit peu différemment. Le Vayater, Vayater Yitzhak, Vayater Lo, Hachem. Vous l'avez? Dans le verset 21. Donc c'est assez étonnant, ça veut dire que c'est comme si au fond la réponse d'Hachem était la prolongation de la démarche de la démarche d'Yitzhak. Mais ça, c'est pas tellement étonnant, il y a plus rien d'écrit étonnant, mais c'est pas tellement étonnant parce que il y a une halakha qui dit que quand on prie dans la Amida, on se réfère à Hashmi al Ozno. Je vous ai déjà raconté ça, oui? Non? Parce qu'on doit prier de telle sorte que mon oreille entende ce que je dis. Et pas par l'intérieur, mais par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut prier quasiment, pas à haute voix, mais quand même, de telle sorte que, bon, au moins de ma bouche, de bouche à oreille, quoi, c'est audible. Et, d'une part. Et deuxièmement, on dit aussi qu'elle a fila poser et recam. La prière ne revient pas vite. Et la question que je me posais, c'était que, vous savez, la prière ne revient pas vite. C'est pas la prière qui revient pas vite. C'est que la prière a une réponse, mais c'est pas la prière qui revient. Et la tfila choseret rekam. La tfila ne revient pas vite. Donc, les termes sont un peu surprenants, non? Vous êtes d'accord? Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quand je prie, cette boucle-là que je fais entre ma bouche et mon oreille, la prière, ça consiste à étirer cette boucle jusqu'à ce qu'elle arrive là où la prière doit arriver. D'accord? Et c'est cette boucle-là qui revient, c'est ma parole qui revient, éventuellement tamponnée, ok? Ou manquant son tampon. Elle ne revient pas vite, c'est-à-dire en fait, elle revient toujours. Elle n'est pas vite, mais en fait, elle revient avec. C'est la prière elle-même qui revient. Ce que tu as dit revient. Et tu t'entends. Et c'est comme si toi-même, tu te donnais à toi la réponse que Hachem a donnée. Puisque c'est ta prière qui revient. Et ça veut dire qu'en fait, d'une certaine façon, on pourrait dire de cette manière-là, que quand on prie, on se parle à soi-même. Je parle à mon oreille. Et Hachem, il écoute, et il dit ok ou pas ok. Mais c'est moi qui me parle à mon oreille. J'ai pensé, pour comprendre un peu ça, hein, comment c'est possible, parce que c'est une bonne explication du processus de la tfila. Comment ça marche la tfila?
ça marche, c'est vous que tu as fait toi. C'est moi qui l'ai fait d'abord. Simplement, Hachem, il a étendu, quoi. Mais moi, la boucle est faite. Après, c'est la topologie élémentaire, on peut étendre, quoi. Et l'idée est peut-être ici que. Qu'est-ce que ça veut dire que je me parle à moi-même quand je prie? C'est. Dans la prière du matin, dans le rapport du matin, on dit Elokai, Neshama, Shenata, Kabi, Teorai, etc. D'accord, mon Dieu, la Neshama que tu m'as donnée est pure, etc. Et tu me l'as reprise, tu me la reprends le soir, tu me la rends le matin, etc. C'est parmi nous, ils disent ça aussi? Ils ne disent pas? Ils disent aussi Elokai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Elokai? On est bien vers le Mina. Là, il dit que qu'est-ce que ça veut dire bon Dieu? Et le cas, c'est mon Dieu. Ça veut dire mon Dieu. Et le quoi? Il y a le mien, il y a le sien, etc. C'est pas mon Dieu ici. Il dit, en réalité, on a plusieurs parties, on a plusieurs degrés de neshama. On a les trois fameux degrés d'Efesh, Ruach et neshama. Et en réalité, il y a deux degrés de plus. Il y a Chaya et Yechida. Ce sont des degrés dont on ne parle pas en général, parce qu'ils sont très 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 hauts. La neshama, elle n'est pas en nous complètement. Elle est essentiellement en dehors de nous. Il n'y a que l'extrémité basse de la neshama qui est en nous. Si vous voyez, c'est comme si, voilà, dans ma tête, il y a ça d'épaisseur, mais tout le reste de la neshama est à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est la neshama? C'est marqué. C'est Khelef Eloka Imaal. C'est une partie de la divinité, si vous voulez, une partie divine en haut. Donc quand je parle, je me parle à moi-même dans ma tfila, Eloka, je parle à mon Dieu, je parle à Hachem, d'accord, mais je me parle à moi-même, c'est-à-dire ça monte en moi. Par ma neshama, j'arrive jusqu'à parler à Hachem en haut. Parce que je suis en train de me parler à moi-même, mais à un degré très élevé de moi-même, aux racines de ma neshama, si vous voulez, et ces racines, elles sont divines. Donc c'est vrai que, comment ça peut arriver jusqu'au divin? Parce que moi-même, j'arrive au divin, d'une certaine manière. Je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que je suis divin. Il y a une part de ma neshama qui est tellement haute qu'elle appartient quasiment à la divinité, un peu comme on dit que vous savez, dans les quatre mondes, le Hatsilut, Bria, Yitzhira, Asiya, la Hatsilut, on appelle ça le monde de l'émanation, mais Hatsilut s'est construit sur la racine Aleph Tzadik Lamed, c'est-à-dire Etzel, auprès d'eux. C'est auprès de Hachem. Pourquoi? Parce que ce monde de la Hatsilut, il est quasiment encore dans la divinité, ça n'a rien à voir avec Hachem lui-même, mais. Dans la divinité, dans la Elakout, dans la divinité, oui. Dans la partie où Hachem, partie d'Hachem qui, de Houd, il va, qui s'intéresse à nous parce qu'il a créé le monde. Donc c'est ça que nous on connaît. Nous on ne connaît pas le reste, on ne connaît rien. Mais la partie, comme si vous voulez, Hachem, il se tourne, il y a une partie, disons, de lui, une émanation de lui qui se tourne vers nous, et ça on connaît. Et ça, cette partie du divin qui est tournée vers nous, dans cette partie-là, il y a aussi Maneshama, la part de Maneshama qui est la plus haute, le Kai. Donc c'est mon Dieu, en fait. C'est mon Dieu, pourquoi? Parce que c'est ma partie dans le divin. Le Haï, je veux dire, chez lui, le Kai chez lui, d'accord? C'est moi-même. C'est une partie à moi. Et donc c'est ça l'idée, c'est la prière, elle fonctionne comme ça. Tu pries, c'est-à-dire qu'il faut le faire comme ça. Tu pries, ça monte en toi, etc. Et puis, toi, tu t'assures que la boucle est bouclée, parce que ça, tu as travaillé avec une boucle, donc il faut l'étirer. D'accord? Et voilà, et la réponse de Hachem, elle est là-bas. Et là, ici, on n'a pas une réponse assez parfaite, puisque c'est le même mot. Il a prié, et ce qui est revenu, c'est le même mot. Vous comprenez? Donc ici, on a vraiment cette idée-là que c'est sa prière qui est revenue.
Et vous
savait bien que, en réalité, Yitzhak il a prié, mais c'est marqué que lui il priait d'un côté et elle, Rivka, elle priait de l'autre. Elle aussi elle priait. C'est pas marqué, disons, explicitement ici dans le texte, mais bien sûr qu'elle était priée également. Rashi dit, Rashi qui le dit, Rashi dit, va y atter l'eau. Hachem lui a répondu. Pourquoi est-ce qu'on dit il lui a répondu? J'ai entendu, il lui a répondu à lui et pas à elle. Elle priait pourtant aussi, mais la réponse est une réponse qu'il a faite à Yaakov, à Yitzhak lui-même et pas à Rivka. Scandale. Ça a l'air très injuste. Quoi. Pourquoi c'est qu'à lui qu'il a répondu? Pourquoi? Chez Endomé, alors il dit quelque chose ici qu'il faut comprendre. Endomé, Tfilat Sadik ben Racha, le Tfilat Sadik ben Sadik. Le Tichaf lo velola.
Sadique fils de Sadique, elle est plus efficace que la prière du Sadique fils de Racha. Et elle était une fille de Racha, Rivka, bien sûr, mais toi, c'est un Racha. Et lui, il est le fils d'Abraham. Donc, il revient à comprendre pourquoi la prière, pourquoi est-ce que j'accorderais, pourquoi Hachem, c'est pas moi, pourquoi Hachem répond mieux à la prière du Sadique fils de Sadique. Je pourrais dire au contraire. Elle est fille de Racha. Elle a fait un travail pour s'arracher à cette gangue, si vous voulez, à cette saleté, cette boue. Elle a réussi à s'en sortir. Pourquoi est-ce que sa prière à elle ne serait-elle pas au moins aussi efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça apparaît comme une injustice flagrante, non?
A priori, mais c'est une injustice.
Bon, mais
c'est plus méritoire.
A priori, c'est plus méritoire. Mais peut-être le problème, c'est que nous trompons en disant que c'est plus méritoire, parce que ce n'est pas le problème seulement si c'est méritoire. Il y a une efficacité. Du point de vue de l'efficacité. L'ancien maître Abraham, super sadik, c'est connu qu'à Rosh Hashanah, il priait Moussaf, je ne veux pas exagérer, mais je crois qu'il veut dire 3 étoiles. Il priait Moussaf. Très très tard. On lui a demandé, disons que c'était pas. C'est-à-dire pas 3 étoiles, il y avait presque 3 étoiles. Oui, c'était presque la nuit. Et à toute vitesse. Il y a le Moussaf qui est une longue prière, Shanah c'est très long, etc. Toute vitesse. On lui a demandé, il me dit, quand tu vas aller d'un point à l'autre, tu dois d'abord construire la route qui va d'un point à l'autre. Après, tu prends ta voiture et tu roules à toute vitesse. Mais ce qui est long, c'est construire la route. Donc ce que je fais, moi, la journée, construire la route. Après, c'est en toute vitesse, mais il faut construire. C'est-à-dire que c'est le principe de la préparation. Les Hassidim, ils donnent beaucoup d'importance à la préparation. À cause de ça, certains Hassidim, aujourd'hui, il y a d'autres qui prient à temps, mais ils prient toujours systématiquement en retard. Alors le Bruskerov, il a dit un jour, il a dit il faudrait dire à ces Hassidim, qui saute la prière d'Arbit un jour, et qui prépare tout de suite Shabbat. Comme ça, il se manque, il sera le très grave, ils sautaient. Donc, de toute manière, les autres, ils ne font pas à l'heure, donc c'est pas bien. Donc c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Alors qu'ils sautent, arrive, parce qu'arrive, c'est facultatif, c'est pas vraiment aussi impératif que les autres, ils sautent une fois pour toutes. Puis après, ils sont en préparation. Ça ne résout pas le problème, mais bon. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est tzadik, ben tzadik, c'est comme si le tzadik précédent avait déjà pavé la route, il a fabriqué la route. Donc du point de vue de l'efficacité, tu n'as pas besoin de te battre pour avancer dans la prière. Son père, il a déjà fait partie des choses. Ça ressemble un peu, enfin, à mon avis, ça ressemble à ce qu'on dit que celui qui fixe un endroit pour prier toujours au même endroit, est loqué Abraham Bozro. Le Dieu d'Abraham vient à son aide. Pourquoi? Parce que ça veut dire le Dieu d'Abraham. Abraham, lui, il a inventé, c'est l'inventeur de la prière. C'est lui qui a inventé la prière. Et donc le Dieu d'Abraham vient à son aide. Il viendra l'aider, parce que ça veut dire que, voilà, Abraham a déjà fait le travail. Quand tu fixes l'endroit de ta prière, alors, c'est comme, même physiquement, tu es habitué, tu sais, la fente dans ce mur-là, elle ne va pas te déranger, tu la connais, ça fait 50 ans que tu pries, il y a toujours cette fente ici, là, c'est connu, tu es en pays de connaissance, tu connais les odeurs à cet endroit-là, tu connais tout à cet endroit-là, tu n'es pas dérangé. Et c'est de ne pas être dérangé, au contraire, c'est un lieu qui devient porteur, parce que cet endroit-là, j'ai déjà prié des tas de fois. C'est ça, Eloke Abraham Bozo, le Dieu d'Abraham vient l'aider. Le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le fait qu'Abraham, lui, il ait inventé la tfila, ce qui fait que pour nous, la tfila, elle est plus facile. On n'a pas à l'inventer. C'est bon, alors, que ce soit par les Sagdola qui ont rédigé la prière, mais même la démarche de prière, on n'a pas à l'inventer. Ça, les patriarches, ils ont fait les choses pour nous, de telle sorte que nous n'ayons pas à inventer les choses. Donc, ils ont facilité la chose. Ok?
Donc, pour elle, la route n'était pas tracée.
Alors, elle, il fallait qu'elle trace la route. C'est pour ça que ce n'est pas aussi efficace. Elle a perdu de l'énergie, elle a beaucoup plus de mérite, elle a plus de mérite. Bon, on n'est pas en train de regarder les mérites. On est en train de regarder l'efficacité de la prière. Bon, alors vous pouvez contredire et dire qu'en réalité, c'est justement les mérites qui font l'efficacité. Mais bon, visiblement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes toujours là? Je sais pas s'ils sont encore là. Vous êtes là? Bien. Alors, elle était enceinte. Alors, le Ahmed Dava, il explique pourquoi elle était stérile. Alors, on dit toujours que Hachem, ils sont tous stériles. Abraham Avinu aussi, Abraham Avinu tous, il est archi stérile. Il était tout tout. Lui non plus, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Même tout seul, il ne pouvait pas en avoir. J'ai un premier nest, Abraham, il a eu un enfant avec Agar. Ils étaient tous les deux mal partis. Et là, avec Davar, le Netziv de l'origine, il dit pourquoi est-ce qu'elle était Akara? Pas seulement avec la réponse standard, car comme je beaucoup vite avec les filatins chez Tzadikim, Hachem désire la prière des Tzadikim. Mais il dit. Rivka, c'était la sœur de Laban à Arami. Bder Hateva, naturellement, il y a un chazal qui dit que les enfants, ils ressemblent aux frères de la femme. Donc les enfants auraient ressemblé à Laban. Donc ils auraient été des gens cruels. Laban, c'est quelqu'un d'extrêmement cruel. C'est pour ça que
naturellement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Pour qu'elle n'ait pas d'enfant qui vienne par un processus naturel, ce qui aurait impliqué qu'il ressemblerait à Laban. Il fallait que ça soit de façon miraculeuse, c'est-à-dire par suite de la prière. Donc c'est pour ça qu'elle était stérile. J'ai entendu une autre explication qui dit que quand Rivka est partie, Laban a donné cette bracha à côté de Rachaït, à me faire la vote, à devenir des milliers de myriades. Et on ne voulait pas que ce soit la bracha de Laban. Bon, on ne veut pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les calottes qui vont sur la plupart, on leur donne ce bracha-là. À part le fait que je n'ai jamais compris pourquoi c'est d'Afka, cette bracha-là qu'on est allé chercher, il n'y a pas d'autres brachotes, celle que Laban donne à sa sœur. On est allé chercher un pourri comme Laban pour donner des bénédictions et prendre modèle sur ses bénédictions à lui.
Et il dit aussi, quand il voit le désert, il le raconte. Il dit aussi la chose d'un Hachem.
Oui.
Et on dit que c'est de là qu'on apprend, dans la Torah, que c'est un peu beaucoup qui choisit le désigné pour l'âme. C'est incompréhensible, c'est des idolâtres.
Ça, il a compris que c'est pas possible. Il a compris que, ok, je suis idolâtre, mais là, il va m'en servir. Alors voilà, elle est enceinte. Vaitrotsu Abanim Bekirba, et les Banim, sont les enfants, s'il faut dire, ils avaient déjà ils ont fait une échographie, ils ont vu que c'était des garçons. Et Vaitrotsu, c'est un drôle de mot. Alors Rachid dit d'ailleurs, c'est un drôle de mot. Le verset, il appelle la Drasha. Verset, il te dit, Dorcheni, explique-moi. C'est-à-dire, parce que Stam, Maï, Retsitsazu, qu'est-ce que c'est que cette Retsitsa, Retsut? Le Katav, Imken, Lamazé Anochi. Et du coup, elle dit, mais si c'est ça, alors pourquoi je suis là? Ça veut dire, si je comprends, qu'est-ce que ça veut vouloir dire, va être au-dessous? Alors, il y en a qui traduisent, il s'entrepoussait. C'est-à-dire, ils se poussaient l'un l'autre. Chacun voulait pousser l'autre, c'est-à-dire chacun voulait tuer l'autre. Alors, sur ce verset-là, quasiment, il y a un Rabbi Lévi qui dit que le fait qu'Esav sonnait Yaakov, le fait qu'Esav a de la haine pour Yaakov, donc la Gemara dit c'est une halakha. C'est clair, c'est comme ça. Il a de la haine. Ça ne date pas de la naissance. C'était déjà là avant. Rashi ramène ce drasha que quand Rivka passait devant un Bet Hamidrash, c'est-à-dire devant la yeshiva de Shem et Ever, c'est Yaakov qui voulait sortir pour y aller, et quand elle passait devant un temple idolâtre, c'est Esav qui voulait sortir. D'autres disent qu'ils se battent parce que chacun veut avoir la totalité, chacun veut être en fait seul pour avoir à la fois ce monde-ci et le monde à venir. Donc dès le départ, on a l'impression, on a cette haine de l'un pour l'autre. À ce moment-là, Rivka, elle dit, mais Si c'est comme ça, si Esav veut exterminer Yaakov et ses enfants, à quoi bon? Alors, ils lisent le Akabo Lamazé Anochi. Pourquoi Anochi? Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements, vous savez bien. Alors, elle demande pourquoi tu cries, pourquoi Hachem va proclamer Anochi, les 10 commandements, si en fait, Esav veut tuer Yaakov. Si Esav tue Yaakov, à qui Hachem va parler quand il va dire à Anochi? Parler à Esav. Évidemment, Esav n'est pas réceptif. Alors du coup, elle va à Vateler, Hidroch et Hachem. Elle va consulter Hachem. Alors vous voyez ici, aller consulter Hachem, ça veut dire consulter Hachem et Ever. Elle va à la Shiva pour demander. Comment on consulte Hachem? Donc elle va demander. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Hachem lui dit, voilà, je te dis quelque chose, c'est un secret, tu ne le dis pas à Yitzhak. Je ne dis à personne. Shnegoim beviter, dans ton ventre, il y a deux peuples. Shneleumim, Mimeaïf et Paris. Deux nations, je ne sais pas. Voilà. Il y a deux peuples. Et ils sont. Voilà. Et ils vont se séparer. De tes entrailles, ils vont se séparer. Ou le homme, il le homme, il est mat, le rabbi a gotseye. Et un peuple. D'accord. Chaque peuple, en réalité, va essayer de prendre le dessus. Et finalement, le plus grand va servir le plus jeune. C'est quoi le secret? Donc il y a donc une lutte qui a l'air d'être une lutte donc, qui date de la phase embryonnaire, en fait, qui se manifeste donc dès avant la naissance. Et cette haine qui les oppose, c'est une règle de fonctionnement du monde. Vous savez bien que la tête des sables est dans la Tamarpella. La tête des sables, quand on a voulu enterrer, vous vous souvenez, on a voulu enterrer Yaakov, il est mort en Égypte, et Yosef l'a transporté, enfin, un enterrement. Le sable est venu, il a dit je revendique la place, ça veut dire, il y avait un nombre de places limitées dans la caverne en question. C'était déjà enterré là-bas Adam et Chava, Abraham et Sarah. Et à l'enterrement ou l'enterrement de Yaakov, il y a déjà Yitzhak et Rivka, il reste deux places. Et Esav, il dit non, mais c'est moi. Gentil, bon, il sera avec sa femme, mais bon, c'est moi. Et pourquoi? Parce que c'est moi l'aîné. Alors Yaakov lui a dit, mais tu m'as vendu ton droit d'aînesse. Alors il dit, Esav, il va. Qu'on amène. Montre-moi la preuve. Où est le papier? Où est le contrat? Les descendants de Yaakov ont dit, ben il est en Égypte. Dis-moi, si je ne vois pas le contrat, je ne vous laisse pas. Je ne laisse pas. Et là, le Midrash dit, il y avait sur place Hushim ben Dan. Dan, il avait un seul fils. Il s'appelait Hushim. Il était sourd. Il est venu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'enterre pas le grand-père? Alors, ils ont expliqué que lui, il empêche. Il empêche. Tchouk. Terminé. Il a sorti son épée. Il a tranché la tête des sables. La tête des sables a roulé. Elle est allée dans Marat HaMakpela. Elle est allée là où elle doit aller. Donc, ça veut dire ce qui se passe, c'est que les sables n'avaient pas le droit d'être enterrés là-bas. Et sa tête, il avait une tête correcte, mais seulement sa tête ne gouvernait pas son corps. Il ne gouvernait pas. C'est le corps qui gouvernait. Mais la tête était une tête parfaite. Avec ça, on peut essayer de comprendre un peu mieux cette idée-là. Vous savez, dans la paracha, il y a un épisode dans lequel Yaakov va voler les brachot que Yitzhak veut donner à Esav. Yitzhak, il est quasiment aveugle et il ne voit pas que Esav le manipule. C'est ça devant Yitzhak, qui était un super tzaddik, qui lui a posé des questions. J'ai déjà dit, je crois que vous avez déjà dit, Hazal dit qu'il posait des questions de ce qu'il faut prendre maaser de la paille et du sel. Alors les gens font comme si la question de Yitzhak était une église dans n'importe quoi. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. La question de Yitzhak, elle est très, très. Très intelligente. Enfin, le sel, c'est fondamental dans le monde. Et la paille, c'est fondamental aussi pour les troupeaux, etc. On a besoin de paille. Pour d'autres choses aussi, d'ailleurs. Et donc, ce que lui, il dit, c'est ok, ce sont des choses qui sont au service de la nourriture, ultimement. Au service du lait des vaches, ou peut-être de la viande des vaches, la paille, et puis le sel, c'est sans dire on a besoin de sel partout, pour manger. Un sel pour le corbanot, un corps pour un pâté de mer. Donc, il voulait dire que là aussi, il faudrait prendre la vigne. Là aussi, il faudrait donner. Pourquoi on ne donne qu'à, au produit fini, en quelque sorte? Pourquoi on ne donnerait pas à toute la chaîne? On donnerait une dîme aux Lévis, aux Cohen, qui eux n'ont pas de champ, ils n'ont pas de propriété, on doit les entretenir. Pourquoi on ne donnerait pas aussi ce qui est en amont, ou peut-être en aval éventuellement, de la nourriture? Donc c'est pas du tout idiot, simplement. C'est-à-dire qu'il va plus loin, cette question elle a un sens. On peut dire non, on ne nous a pas demandé. Mais dire que la question est idiote, je crois que c'est une idiotie. Je crois que c'est vraiment une bêtise de penser que la question est idiote. Et ça, c'est tout sauf un idiot. C'est quand même très très intelligent, pour preuve, sa tête, elle est là-bas. Alors la question.
question qui se pose, c'est pourquoi Yitzhak Avinu voulait donner des brachot à Esav. Certains gens donnent toutes sortes de réponses. Moi, il me semble que ce que Yitzhak voulait faire, Yitzhak voulait qu'ils travaillent ensemble. Et ça, donc, il faut qu'il comprend que c'est comme ça que ça devrait être. Le problème, c'est que Yaakov et Esav se sont partagés le monde. C'est-à-dire, Esav a pris Olamazé et Yaakov Olamaba. Ils sont partagés. Et il ne faut pas ça, il ne fallait pas partager. La tragédie dans toute l'histoire, c'est ce partage. Parce qu'à partir du moment où on partage, chacun veut augmenter son territoire. Alors que si on travaille ensemble, vraiment ensemble, alors il n'y a plus de rivalité. On travaille ensemble. Donc je pense que Saint Avinu, il pensait que Yaakov, il serait là dans sa tente à réfléchir, à travailler, théoriquement, de développer la Torah, etc. Et il va parler à Esav, et Esav, il va réaliser les choses sur le terrain. Esav, c'est un homme de terrain. Non, il va aider à la réalisation des choses. Alors, il pensait qu'il faut lui donner des brachot matériels. C'est des brachot que Yaakov a appliqué. D'accord ? Hachem va te donner des brachot sur ce quoi ? C'est purement matériel. Donc, il faut que ça arrive chez Yaakov. Mais il serait qu'il voulait donner ça à Esav parce que c'est lui qui allait matériellement développer le monde sous la direction, en quelque sorte, de l'imoud de Yaakov avec un frère qui comprend la Torah. D'accord ? S'il était un tatin fini, il ne pourrait même pas comprendre ce que Yaakov va lui demander. Mais Yaakov va lui donner des idées, un travail, et lui il va réaliser les choses. C'est ça que pensait, mais ça, c'était possible si Esav avait été d'accord de travailler sous la direction, si on peut parler comme ça, de Yaakov. Mais bien sûr que dès le départ, ils se sont complètement séparés, et Esav ne veut pas. Il ne veut pas. De tout prendre, les deux mondes en réalité. Et d'une certaine manière, le Gaon de Vilna dit que la situation étant telle qu'elle était, c'est-à-dire dans la haine d'Esav pour Yaakov, si Yaakov n'avait pas eu les brachot matériels, nous, dit le Gaon de Vilna, n'aurions même pas pu exister. Parce que si c'était Yaakov, Esav qui avait avec sa haine contre les juifs. C'était lui qui avait toute la bracha matérielle, parce que nous, on ne pouvait pas exister. Donc, il n'y a plus de place pour nous dans le monde. Donc, si vous voulez, quand Rivka a contrecarré les plans de Yitzhak, parce qu'elle a envoyé son fils se faire passer pour Esav, pour avoir les brachot. Et quand Yitzhak a compris que celui auquel il a donné les brachot, c'était Yitzhak. Il dit d'abord, il dit Gam Baruch Yé, okay, qu'il soit vraiment béni. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il lui donne vraiment les mêmes brachot, mais il les donne volontairement, pas par erreur. Et c'est marqué qu'il l'a fait parce qu'il a vu le Gehinnom ouvert devant ses pieds. Il a compris qu'il avait failli faire quelque chose, une bourde énorme, parce que c'est possible. Yitzhak, c'était un être d'un autre monde. Il était sur le misberg, son père allait le tuer. Alors, dans ses yeux, il y a les larmes des anges qui sont entrées dans ses yeux, ce qui a fini par le rendre aveugle. Donc c'est quelqu'un qui a fait une expérience que personne d'autre dans l'histoire n'a jamais fait. C'est-à-dire, il y a peut-être des gens qui ont effectivement sacrifié leurs enfants quand au moment des croisades, à York, Shiloh, etc., où les parents ont sacrifié leurs enfants pour que les chrétiens les prennent pas et les convertissent. Mais eux, après, donc les enfants étaient plus vivants, vraiment, et eux non plus étaient plus vivants. Eux aussi se sont suicidés. Donc, si vous voulez, des gens qui... Là, on a eu tout le monde. Avram qui vit après ça, et Yitzhak qui vit aussi après cette expérience. Donc, il vit après cette expérience-là. D'avoir eu son père qui allait faire la Shkita. Donc, ça... Il est dans un autre monde. Certains disent qu'il a une autre neshama sur lequel il est mort et que si on lui a attaché, on lui a donné une deuxième âme, une deuxième neshama. Donc, on comprend un peu quelle était la démarche de Yitzhak, mais il se trompait. Et maintenant, on comprend ce que Shem a dit à Rivka. Shem a dit à Rivka, tu n'as pas le droit de dire à qui que ce soit ce que je te dis. Et il lui a dit qui était Esav et qui était Yaakov. Donc Rivka, elle sait pertinemment qui est Esav, elle n'est pas dupe. Mais elle n'a pas le droit de le dire à Yitzhak. Et ça se dit aussi d'une autre manière, on dit que les prophètes, un prophète, il a l'obligation de dire ce qu'on lui a dit de dire. Elle interdit de dire à qui que ce soit ce qu'on ne lui a pas dit de dire. Les prophètes, ils recevaient des fois des prophéties qui étaient pour eux, pour qu'eux comprennent un peu la suite des choses, et qu'ils puissent bien répondre à certaines questions et tout. Et bien, on a un autre exemple, justement, avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il savait que Yosef était vivant. Il voit son fils Yaakov qui... Quand le deuil, il n'y a plus de Ruach HaKodesh, etc., et il ne lui dit rien. Parce que, en tant que prophète, ce qu'il savait, c'est par prophétie, il n'avait pas le droit de le dire. Le prophète n'a pas le droit de dire quelque chose qui n'a pas été. Donc on lui a pas, Hachem ne lui a pas ordonné de le dire. Donc, c'est le fameux secret dont il parle ici, le secret que Hachem a donné à Rivka, c'est. Qui est ça? Et donc c'est pour ça, sachant qui est ça, elle se permet de tromper, enfin d'obliger Yaakov à tromper son père, à se faire passer pour lui. Mais c'était la condition, c'était nécessaire. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire? J'en sais rien. Si vous voulez, je ne sais pas. Pourquoi il fallait que ça se passe de cette manière-là? Non, c'est sûr que si Yitzhak avait dit clairement « Je donne à Yaakov », ça aurait simplement augmenté la haine de Esav contre Yaakov. Mais ici, il fallait qu'il comprenne que c'est Menachemim qui ne le reçoit pas, cette bénédiction, parce qu'il y a un problème avec lui. Sinon, il aurait pu dire « Moi, c'est mon père qui m'en veut, ou mon père et ma mère qui m'en veulent, qui ne veulent pas me donner la bracha ». Mais là, il voit bien que c'est pas son père qui lui en veut, puisque son père, il voulait lui donner. Et Menachem, ça n'a pas marché. Alors, il va dire que c'est Yaakov qui l'a trompé. Il va dire que Yaakov l'a trompé en lui achetant la Bechora, le droit d'aînesse. D'accord? Que lui, il était affamé à ce moment-là. Il n'avait pas la tête à réfléchir à cette question-là. Donc, il a vendu ce droit d'aînesse. Mais après, il le réclame. Même chose, après il dit, il m'a trompé deux fois. Une fois avec la Bechora et une fois avec la Bracha. Vous voulez. Il y a toute cette histoire, cette discussion. Alors c'est un peu compliqué parce que Yaakov Avinu, c'est le Ish Emet. Il est considéré précède l'Abraham. Et Emet à Yaakov. Emet à Yaakov, c'est de l'Abraham. Yaakov, il n'arrête pas de mentir. C'est étonnant. Il est Ish Emet, et là, il est dans une situation où il ment. Il ment à son père. Après, il va mentir à
Lavan, il est obligé, mais il ment quand même. Le Ish Emet, l'homme est vrai, par excellence, il ment. Il ment parce qu'il y est obligé, mais il ment. Maintenant, lorsque ça va, lorsqu'il revient de la chasse, il amène à manger à son père et que son père lui dit « Mais j'ai déjà mangé, j'ai quelqu'un qui s'est fait passer pour toi. » C'est marqué « Kishmoa et ça va se livrer à vivre, va être ça que tsaaka gdola umara, ad meod. » Il a poussé un cri de douleur, un énorme cri de douleur et d'amertume. Ad meod, jusqu'à très très très, très. Meod dans la Torah, ça veut dire au-delà de tout. Et ce cri de douleur d'Esav, qui lui a été causé par Yaakov, ce cri de douleur-là, on a dû le payer. Donc on a payé au temps de Haman. Mordechai aussi a dû, quand il a appris le décret de destruction des Bnei Israël, alors il a poussé un cri qui est la réponse, enfin, si vous voulez, qui a été induit en fait par le cri poussé par Esav. Donc, quelque part, on voit ici un lien entre le fait que Yaakov a trompé Esav et ce qui nous est arrivé. Le projet de destruction du clan Israël en Perse, en Daman. Bon, on veut dire que c'est assez énorme. On trompe Esav, et ça se traduit par un décret, une solution finale pour les pays Israël. Alors c'est vrai que finalement, on a été quitte pour la peur. Bon, finalement, il y a eu zéro mort. Cette solution finale, c'est une solution finale à zéro mort. Et bon, n'empêche, la peur était là. On a l'impression que le décret est là. Mais il a fallu que les Israël s'organisent avec Esther, etc., pour contrecarrer le projet de Daman. Mais peut-être que il y a une Gemara dans le Gila qui dit que les Israël, enfin les élèves de Rabbi Shimon lui ont demandé pourquoi c'est arrivé cette histoire de Daman. Il dit parce que prosterné dans la statue de Nebuchadnezzar, etc. Alors, ils ont fait ça, c'est de la frime, c'est-à-dire ils ont fait ça parce qu'ils avaient trompé. Jamais ils ont pensé que adorer quelque chose d'autre qu'Hachem. Alors, la mère a dit, Hachem a répondu, mais moi aussi c'était de la frime, j'ai jamais eu l'intention de me détruire. Alors, on voit très bien que c'était simplement pour nous faire peur, pour nous faire pousser un cri. Là, on était quitte pour la peur, mais ce qu'on méritait, c'est la peur. On ne méritait pas d'être détruit, on méritait la peur. D'après ça, c'est pas. On méritait la peur seulement, et c'est pour ça que ça a marché, le projet, toute l'histoire d'Esther, etc., parce que on ne méritait pas la mort. Toute cette combinaison, etc., qui passe par Esther, elle n'a plus marché que parce que Michel n'avait pas. Il ne s'agissait pas de travailler sur un décret divin pour quoi les messages méritaient la mort, et qu'il aurait fallu à la Moshe Rabbeinu qui prie. Là-bas, ils méritaient vraiment la mort, les messages. Avec le mot d'ordre. Moshe Rabbeinu prie et il obtient effectivement cette rémission, il obtient tout ceci. Là-bas, vraiment, il a travaillé contre quelque chose qui était une réalité. Mais si on dit que tout le problème, là-bas, ce n'était pas du tout qu'on méritait la mort, c'est qu'on méritait la peur de la mort. Alors, du coup, tout le processus du rêve, de Esther qui va chez le roi, et là, etc., et qu'on a tué Aman, etc., tout ça, c'est. Bon, c'est, on a pris une forme comme ça, mais. Ça n'a marché que parce qu'il n'y avait pas vraiment de décret. Le décret de condamnation à mort, après ça. C'est pour ça que peut-être qu'on peut comprendre que la solution finale s'est soldée par zéro mort, alors que la dernière solution finale s'est soldée par 6 millions de morts. Parce que peut-être là-bas, on méritait vraiment la mort. Avec ça, il méritait la mort. Et... Je ne dis pas comment, c'est pas du tout. C'est très certainement pas du tout une histoire de la génération sur une seule génération là, c'est une accumulation de. Ou alors c'est un projet divin qu'il faut passer par là. Si on veut regarder ça comme ça, suivant comment on apprend la sortie d'Égypte, il y a quand même 4/5 des gens qui sont morts avant de ne sont pas sortis d'Égypte. Donc, il y a 80% des gens qui meurent. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que il semble ici que c'est pas de la blague, c'est pas du cinéma que ça va faire. Quand il crie, etc., il est amer et tout. Je pense que si c'était du cinéma, on n'aurait pas payé pour ça. On n'aurait pas été sanctionné, nous, pour lui avoir causé quelque chose, alors que c'était du cinéma, de son cri, etc. Donc on lui a fait vraiment mal. Et l'idée, c'est que même quand c'est pour la bonne cause, on paye quand on fait du mal à quelqu'un. L'exemple, il y a un exemple assez tragique, en fait. C'est l'exemple de Hana. Hana, la mère de Shmuel, elle était stérile aussi. Et la co-épouse de Elkana, son mari, Pnina, elle avait tous les ans un nouvel enfant. Et Pnina, elle voulait forcer Hana à se sortir les tripes dans sa prière. Il faut que tu arraches le ciel, tu déchires le ciel pour obtenir cet enfant que tu veux avoir. Et pour la pousser dans ses derniers retranchements, elle n'en puisse plus, alors elle lui venait sans arrêt. Et effectivement, ça a marché, mais Pnina l'a payé ça très cher. Par la suite, Hana, elle a eu Shmuel, le prophète Shmuel, ensuite elle a eu d'autres enfants. Et chaque fois que Hana avait un nouvel enfant, Pnina en perdait un. Sanction de ce qu'elle a fait souffrir Hana. Tout le monde est d'accord qu'elle l'a fait souffrir pour la bonne cause, c'était vraiment. Semble-t-il, ici, c'est une chose assez terrible. On n'a pas le droit de faire souffrir l'autre, même pour la bonne cause, même si on veut le pousser dans ses derniers retranchements pour être sûr qu'il va sortir la meilleure prière possible, etc. Et ici aussi, quelle que soit la bonne raison qu'on avait de piquer les brachotes à Esav, sauf, il en a souffert, et si on a souffert, il en a souffert, on paye. C'est assez terrible, si vous voulez, à penser à ça. Quand quand Yitzhak a voulu donner les brachot à Esav, il l'a appelé, bon, il dit voilà, je suis vieux, etc. Et puis il dit, prends du gibier pour moi. Et fais-moi un ragoût comme je l'aime. Ils ont très bien. Le Sforno, il se demande pourquoi, pour pouvoir donner la bracha, Yitzhak a besoin de manger quelque chose qui lui fait plaisir. Il a besoin donc de se mettre en condition, semble-t-il. Ni Moshe, ni Yaakov Avinu par la suite, quand il donne les brachot, ni Moshe, quand à la fin de sa vie, quand il donne les brachot, ils n'ont demandé à manger. Pourquoi Yitzhak a besoin de ça? Dans le Sforno, il veut dire que Yitzhak s'est rendu bien compte que Esav n'avait pas suffisamment de mérite pour mériter les brachot. Donc il voulait lui donner l'occasion de faire une mitzvah de supplémentaire, et qu'avec cette mitzvah, ça lui ouvre le chemin de la possibilité de recevoir les brachot. Ça, c'est une des explications. J'ai entendu de. C'est un volet que j'entends de ça. Que. Il y a des moments où. Quand on veut faire quelque chose de très important. Le Satan, il s'en mêle. Et il nous empêche de le faire. Dans la Torah, on a un autre exemple. Dans la Torah, on a un exemple très connu. On pourrait dire qu'il y a une mitzvah de manger le 9 Tishri, la veille de Yom Kippour. C'est le seul jour de l'année où il y a une mitzvah de manger. Oui, une mitzvah de manger de la matzah, mais un jour où on a toute la journée une mitzvah de manger, le seul jour de l'année, c'est le 9 Tishri, c'est la veille de Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'il faut manger? Parce que comme à Kippour, on va se conduire un peu comme des anges, on a besoin d'apaiser les Yetzirahs. Les Yetzirahs, il n'est pas d'accord, comme tous les anges, avec on ne mange pas, on se met bien dedans, de chaussures, etc. Ça ne lui plaît pas. Et il ne va pas nous laisser faire. Donc pour qu'il nous lâche les baskets, en l'occurrence, on lui donne à manger. Pour le neuf, il s'agit de manger pour pouvoir jeûner, en fait. Donc ce n'est pas du tout pour le plaisir de manger. C'est manger pour jeûner. C'est comme si il dit, ok, mais moi j'ai besoin de manger deux jours. On ne mangera pas le 10, il faut me donner le 9, une double part. Pour nous laisser. Et un volet, quelque part, il mettait ça en rapport. Il disait qu'il sera permis où il sentait que il fallait aller chercher cette bracha très haut. Cette bracha qu'il voulait donner à l'Essa. Pour que ce soit possible, il fallait apaiser les. Pour l'apaiser, il fallait lui donner quelque chose qu'il aime. Donc il fallait, c'est ça qu'il a demandé. Il a demandé, on va l'apaiser. À ce moment-là, voilà, pendant que j'aurai mangé, il va digérer, il va être rassasié pour quelques heures, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir donner la bracha. Je vais pouvoir te donner la bracha. Ce serait la raison pour laquelle il l'a envoyé chercher, faire quelque chose qu'il aime. moi qui n'étais peut-être pas aussi connaisseur que ça, parce que finalement, il a mangé ce que la mère préparait. Là, c'est peut-être la mère préparée, du cabri façon chasseur. Je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas, lui, il n'a pas vu la différence dans le repas. Donc, ou bien, il savait très bien cuisiner le gibier, même si... Enfin, cuisiner autre chose que du gibier pour le faire apparaître comme si c'était un gibier qui avait été tué, je ne sais pas, dans sa course, je veux dire, alors que c'était un animal qui a été pris à l'étable et il n'est pas dans le même état. Donc, peut-être la viande est différente, je ne sais pas. En tout cas, il ne sera qu'à rien vu là-dessus. Donc, ce serait ça l'explication pour laquelle, le pourquoi de. Et donc, ça veut dire que les brachot que Yaakov donne et que Moshe donne, ou bien eux sont à un niveau tel qu'ils peuvent les donner sans que ils maîtrisent suffisamment. Alors, c'est possible qu'ils étaient plus proches de la mort que ne l'était Israël. Pour Yaakov, c'est juste à l'arrivée de sa mort qu'il donne ses brachot. Et Moshe aussi, c'est le jour de la mort, il donne toutes ses brachot. Alors que Israël, il dit, je suis vieux, je vais mourir, mais il va encore vivre un certain temps. Donc peut-être que quand on est proche de la mort, plus proche de la mort, le Satan nous dit, ok, on n'a plus que pour quelques heures, été séparé. Il dit, si quelqu'un, encore, bien qu'il dise, je suis vieux, etc., j'ai envie de mourir, jamais que le Satan, il sait très bien qu'il ne va pas mourir maintenant, c'est chiant, il ne peut pas te servir ce que tu veux. Et donc, Israël, il a ressenti qu'il était obligé de. Il était obligé de faire quelque chose pour apaiser le Yetzara, et que le Yetzara, le Satan, lui, il